Bonjour à tous, merci Bart. Donc nous allons revoir les principaux symptômes de la rétinopathie pigmentaire et de la maladie de Stargardt. Vous le savez, la rétine, c'est le feuillet nerveux qui tapisse le fond de l'œil. Et ce feuillet nerveux est constitué de différentes cellules, les photorécepteurs, qui sont constitués des bâtonnets, mais également des cônes sensibles au vert, des cônes sensibles au rouge et des cônes sensibles au bleu. Ces photorécepteurs vont travailler main dans la main avec les cellules de l'épithélium pigmentaire. Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Et donc les photorécepteurs vont permettre la transformation de l'information lumineuse en information électrique. Cette information électrique va ensuite être transmise aux cellules ganglionnaires, dont les prolongements nerveux, les axones nerveux, vont constituer le nerf optique. Et donc cette information lumineuse transformée au niveau de la rétine en information électrique va être transmise au cerveau pour être interprétée, et c'est ce qui permet bien sûr la vision. Les cônes, tout d'abord, au nombre environ de 4 millions au niveau de la rétine, sont concentrés au niveau du centre de la rétine et ils ne fonctionnent qu'en pleine lumière. Ils sont responsables de la vision précise centrale, c'est-à-dire lire un livre, lire les sous-titres à la télévision, reconnaître les traits d'un visage. Ils permettent aussi la vision des couleurs, ils permettent aussi la vision des reliefs. Les bâtonnets sont beaucoup plus nombreux, environ 100 millions par œil. Ils sont situés en dehors du centre. Leur densité va diminuer progressivement au fur et à mesure qu'on progresse vers la périphérie. Eux ne fonctionnent que quand la lumière diminue. Et ils sont responsables de la vision dans la pénombre. Dans la rétinopathie pigmentaire, de manière générale, ce sont les bâtonnets qui vont être principalement touchés et de manière précoce, qu'ils vont entraîner d'abord des difficultés en vision nocturne, ce qu'on appelle l'héméralopie, et également des difficultés d'adaptation à l'obscurité. Quelques exemples de ces difficultés, c'est la marche nocturne lors de camps scouts qui est très difficile, voire impossible pour les adolescents. C'est l'impossibilité de voir les étoiles dans le ciel. C'est des difficultés de déplacement au cinéma, au théâtre, dès que la lumière diminue, que la séance commence. C'est aussi la difficulté de conduire la nuit, de passer d'une pièce éclairée à une pièce sombre. Donc ces difficultés vont toucher les deux yeux, bien sûr, et vont apparaître de manière insidieuse, de manière lentement progressive. Sur la photo de gauche, on illustre ce qu'est l'héméralopie. C'est l'impossibilité, lorsqu'on est le soir, dans un endroit peu éclairé, comme ici une rue, de dépister les obstacles, que ce soit le bord du trottoir, que ce soit une poubelle, au contraire d'un individu normal qui, lui, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, va pouvoir se déplacer et éviter les obstacles placés sur son chemin. Ensuite, cette difficulté dans l'obscurité va s'accompagner d'un rétrécissement progressif du champ visuel qui va empêcher malheureusement la conduite automobile, qui va entraîner la chute sur des obstacles qui n'ont pas été vus précédemment, bien sûr qui vont limiter, et c'est un point très important, les déplacements de manière autonome et qui va compliquer les gestes simples de la vie quotidienne. De nouveau, ce rétrécissement du champ visuel, il touche les deux yeux, il arrive de manière progressive. À ce stade, la vision centrale est conservée, donc il est possible de continuer à lire un livre, à écrire, sauf si des complications apparaissent, comme la cataracte, comme l'œdème maculaire, d'où l'importance de les dépister et de les traiter à temps, ces complications de cataracte et d'œdème maculaire. Alors, le champ visuel qui est rétréci, ça va apparaître sous forme d'un grisé, sous forme d'un flouté, qui apparaît progressivement, qui apparaît de manière insidieuse, et que le patient ne va pas percevoir tout de suite. C'est parfois son entourage qui va faire remarquer qu'il accroche plus souvent, avec le rétroviseur, l'entrée du garage. Donc ici, sur la photo de gauche, on voit un champ visuel qui commence à se rétrécir avec une zone de flouté, de grisé périphérique, en comparaison avec un champ visuel normal. Alors, ces difficultés du champ visuel, je vais les illustrer avec les diapositives suivantes. Voilà les limites d'un champ visuel normal. Et puis, progressivement, de manière lente, de manière progressive, vont apparaître des taches en moyenne périphérie. Ces tâches vont progresser, vont se rassembler, vont fusionner avec une progression du déficit à la fois vers le centre et vers la périphérie. Réaliser le phénomène du diable sorti de sa boîte, où en fait la personne avec un champ visuel rétréci va tout d'un coup, à sa grande surprise, voir apparaître un obstacle mobile qu'il n'avait pas eu le temps de déceler parce que l'obstacle est apparu brutalement dans son champ de vision et n'a pas eu le temps de le voir arriver. Ça peut être un cycliste, ça peut être une voiture. Et donc le patient est vraiment surpris et risque de se blesser, bien entendu. Malheureusement, donc, le champ visuel continue lentement, insidieusement à progresser, réalisant au stade avancé ce qu'on appelle le champ visuel tubulaire, comme si on regardait à travers un long tube d'un mètre, de deux mètres. Et donc, on va voir son environnement de manière partielle, de manière fragmentée, et ça va nécessiter un balayage permanent et un effort mental pour reconstituer pièce après pièce l'ensemble de son environnement. Donc c'est très fatigant, c'est très difficile. Alors souvent, chez les adolescents, ces problèmes de champ visuel sont responsables d'une pseudo-gaucherie. On trouve que ce jeune est particulièrement maladroit. Quand il va à des cours de danse, il n'arrive pas à réaliser des chorégraphies de groupe, que ce soit lors d'un spectacle de danse classique ou d'un cours de Zumba ou d'un flash mob. On trouve que tu n'arrives pas à te positionner par rapport à tes partenaires. Les jeux de ballon sont aussi très difficiles, particulièrement les sports d'équipe comme le basket, où il faut réagir très vite à la balle qu'on reçoit, qu'on n'a pas le temps de voir venir dans son champ visuel. Et donc, cette difficulté à réaliser des activités de groupe peut parfois avoir des interactions sociales et parfois laisser le jeune un peu démuni parce qu'il ne sait pas faire ce que font les autres. Il ne sait pas aller jouer sur le parking au basket avec ses copains ou au football. Peuvent s'associer aussi des éblouissements, qu'on appelle la photophobie, mais également des perceptions lumineuses anormales, scintillantes, qu'on appelle des photopsies. On va aussi observer une mauvaise perception des contrastes, donc éblouissant, mauvaise perception des contrastes va vraiment handicaper la personne et l'empêcher de voir des choses magnifiques comme les détails de ce fameux château des Comtes de Flandre qui est magnifique et dans cette ville de Gand tout aussi magnifique. Alors, au stade plus avancé de la maladie, les cônes centraux vont malheureusement aussi être touchés, entraînant donc une altération de la vision des couleurs et puis une atteinte de la vision centrale, de la vision précise, qui bien sûr va toucher les deux yeux. Donc voilà les symptômes de la rétinopathie pigmentaire. Comme Barthes l'a bien dit, dans la maladie de Sargat, ce sont des choses différentes, les symptômes différents, sont une évolution différente. Donc l'anomalie génétique qui se situe au niveau des cônes et des bâtonnets va entraîner l'accumulation de dérivés de la vitamine A qui vont être toxiques au niveau de cellules d'épithéliome pigmentaire, entraînant une perte de ces cellules d'épithéliome pigmentaire et secondairement une dégénérescence des photorécepteurs parce que les uns, les photorécepteurs et les cellules d'épithéliome pigmentaire ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et donc on va avoir une atteinte centrale car les cônes sont concentrés au niveau du centre, mais également paracentrale car la densité des bâtonnets diminue de la région paracentrale vers la périphérie. Donc les symptômes vont être différents. On va avoir une baisse bilatérale de la vision précise, donc de nouveau lire, écrire, voir les sous-titres à la télévision, reconnaître les traits d'un visage, accompagné de tâches, ces fameux scotomes qui seront centraux ou paracentraux, qui vont devenir de plus en plus denses, avec également une altération de la vision des couleurs. Mais de manière générale, contrairement à la rétinopathie pigmentaire, le champ visuel périphérique va être conservé et donc permettant, dans ce cas, les déplacements de manière autonome. La photographie de gauche donc, illustre cette diminution d'acuité visuelle accompagnée d'un scotome central qui empêche malheureusement de voir les détails les plus importants d'un environnement. Dans la forme typique de la maladie de Sargat, ce sont des enfants ou des adolescents qui sont touchés avec une baisse de vision bilatérale qui va être très précoce, qui va malheureusement être sévère et qui va être rapidement évolutif. Il existe des formes plus tardives chez l'adulte où l'évolution va être plus lente et le pronostic va être moins sévère. Je vous remercie de votre attention.